Chapitre 26e, scène d'amour. Monsieur Slope, nous l'avons dit, quitta le palais, heureux de son triomphe. Non qu'il crût n'avoir plus de difficultés à vaincre, et il ne s'abusait pas à ce point. Mais il sentait qu'il avait manœuvré sur l'échiquier aussi bien que les pièces le lui permettaient, et qu'il n'avait rien à se reprocher. Il commença par mettre à la poste la lettre adressée à l'archevêque, puis il se mit en devoir de pousser l'avantage qu'il avait obtenu relativement à M. Harding. Si Mrs. Bold avait été chez elle, il lui aurait fait une visite, mais la sachant à Plumstead, il lui écrivit la lettre suivante, la première, à ce qu'il espérait, d'une série de tendres épîtres. « Chère Mrs. Bold, vous comprenez parfaitement que je ne puisse à présent correspondre avec votre père. Je serai heureux de le pouvoir. J'espère que le jour n'est pas éloigné où les nuages se dissiperont entre nous et où nous nous connaîtrons mieux l'un l'autre. Mais je ne puis renoncer au plaisir de vous envoyer ces lignes pour vous dire que M. Q a, aujourd'hui, en ma présence, renoncé à toute prétention à l'emploi de l'hospice et que l'évêque m'a affirmé son intention de l'offrir à votre estimable père. Voudrez-vous, en lui présentant mes compliments respectueux, lui demander de venir voir l'évêque vendredi ou samedi entre 10h et 1h. L'évêque le désire. Si vous voulez bien me faire savoir par un mot le jour et l'heure, je prendrai garde que les domestiques l'introduisent sans délai. Peut-être devrais-je n'en pas dire davantage. Pourtant, je voudrais que vous fissiez comprendre à votre père qu'entre l'évêque et lui, il ne sera nullement question de la façon dont il lui conviendra de remplir ses fonctions. Quant à moi, je suis persuadé que pas un prêtre ne les remplirait mieux qu'il ne l'a fait déjà et qu'il ne le fera encore. Dans une circonstance antérieure, j'ai manqué de discrétion et de patience. J'aurais dû considérer l'âge de M. Harding et le mien. J'espère qu'il agréera mon regret. J'espère aussi qu'avec votre concours et par vos soins pieux, le vieil hospice sera doté d'une école du dimanche qui, avec la grâce de Dieu, sera une bénédiction pour les pauvres de la ville. Vous comprenez que cette lettre est confidentielle. Le sujet qui est traité l'exige ainsi. Mais, naturellement, vous pouvez la montrer à votre père si vous le jugez utile. J'espère que mon bon petit ami Johnny se porte aussi bien que possible. Le cher mignon continue-t-il à batailler contre les belles et longues tresses soyeuses de sa mère? Je puis vous assurer que vous manquez beaucoup à vos amis de Barchester, mais ils ne sont pas assez égoïstes pour regretter votre séjour au milieu des champs et des fleurs pendant cette étouffante chaleur. Croyez, je vous prie, chère Mrs. Bold, à mon bien sincère dévouement, Obadiah Slope. À tout prendre, et si l'on considère que M. Slope voulait entrer dans l'intimité de Mrs. Bold, cette lettre était assez habile, sauf l'allusion aux tresses. Un homme ne parle pas à une femme de ses tresses, à moins d'être avec elle dans les termes d'une familiarité intime. Mais M. Slope, avec son ignorance du monde, ne pouvait le savoir. Il désirait ardemment donner à sa lettre un tour affectueux, tout en craignant que ce ne fût imprudent, car la lettre, il le savait bien, serait montrée à M. Harding. Il aurait insisté pour qu'elle fût strictement confidentielle, s'il n'avait senti que cette recommandation ne serait pas écoutée. Il avait donc mis un frein à sa passion, n'avait pas signé votre affectionné, et s'était contenté du compliment aux tresses de Mrs. Bold. Ayant fini cette lettre, il la porta chez Mrs. Bold, et apprenant de la domestique que dans l'après-midi même elle allait porter différentes choses à Plumstead, il la laissa entre ses mains avec 1000 recommandations. Nous allons suivre M. Slope jusqu'à la fin de cette journée et nous reviendrons dans le prochain chapitre à la lettre et à ses effets désastreux. Il y a une vieille chanson qui donne un excellent avis à ceux qui font la cour à une femme. Il est bon d'en avoir fini avec un ancien amour avant de se lancer dans un nouveau. M. Slope ne connaissait pas cette sage maxime. Après avoir écrit la lettre à Mrs. Bold, il songea à aller faire une visite à la signora Neroni. En vérité, il était difficile de dire lequel des deux amours était l'ancien, lequel était le nouveau, M. Slope ayant pris feu des deux côtés à la fois. Peut-être, pensait-il, qu'il était prudent d'avoir deux cordes à son arc. Mais deux cordes à l'arc de Cupidon sont toujours dangereuses pour celui que vise le petit dieu. Et il faut toujours se rappeler qu'entre deux chaises, on peut s'asseoir par terre. M. Slope, en poursuivant Mrs. Bold, obéissait à ses bons instincts. Ses mauvais instincts le poussaient vers la signora. eût-il obtenu la main de la veuve, que personne n'eût pu le blâmer. Vous, lecteur, moi et les autres amis d'Éléanor, nous en aurions éprouvé du regret, du dégoût même. Mais c'est à Éléanor, et non à M. Slope, que nous en aurions voulu. L'évêque mâle et l'évêque femelle, le doyen et le chapitre, le clergé diocésain en réunion plénière, n'eût rien trouvé à désapprouver dans un semblable mariage. La possession d'un revenu de 1000 livres et d'une charmante femme n'avait rien qui pût diminuer les mérites et les vertus d'un prêtre. Mais ses relations avec la signora Neroni n'avaient point un caractère aussi innocent. D'abord, il savait que son mari était vivant, il ne pouvait pas lui faire la cour honnêtement. Ensuite, eût-il pu la courtiser honnêtement, elle n'avait rien qui justifiât sa recherche. Elle n'était pas seulement sans fortune, mais elle n'était point une femme que pût choisir l'homme qui voulait une compagne vraiment utile. M. Slope savait qu'elle était irrémédiablement estropiée et infirme. Mais M. Slope n'était pas maître de lui-même. Il savait qu'il faisait mal en allant passer tout son temps dans le petit salon du docteur Stanhope. Il savait que si sa conduite était divulguée, c'en était fait de ses projets sur Mrs. Bold. Il savait que le scandale naîtrait bientôt sur ses pas, et que bientôt, parmi ses confrères, il serait question des soupirs qu'il poussait au pied de la dame. Il savait qu'il agissait contre les principes qu'il s'était imposés et sur la stricte observation desquels il fondait sa fortune future. Mais nous l'avons dit, il n'était pas maître de lui-même. La passion, pour la première fois dans sa vie, était plus forte que sa volonté. Quant à la signora, elle n'avait point cette excuse. Elle ne se souciait pas plus de M. Slope que de tous les autres qu'elle avait tenus à ses pieds avant lui. Elle acceptait ses hommages sans déplaisir, avidement même. Il était la plus grosse mouche que Barchester eût envoyée jusque-là dans sa toile. La signora était une araignée redoutable. Elle tissait des toiles merveilleuses. Prendre des mouches était sa vie. Et c'était pure cruauté. Que pouvait-elle faire de ses victimes une fois prises? Elle ne pouvait les manger sous forme de mari, comme le font de jeunes demoiselles dont la toile est le plus souvent l'œuvre habile de leur mère. Elle ne pouvait les dévorer sous forme d'amant. Sa malheureuse infirmité lui interdisait toute escapade. Enlevez donc une femme à qui il faut 3 domestiques pour quitter un sofa. La signora était à l'épreuve de la passion. Le temps d'aimer était passé pour elle. Son cœur, du moins ce qu'elle avait eu de cœur, avait eu quelque vie à un âge où M. Slope méditait sur le second livre d'Euclide et sur le moyen de payer ses dettes d'étudiant. Si l'on considère l'âge, la signora était plus jeune que lui. Mais pour ce qui était des sentiments, de la connaissance des manèges amoureux, de l'intrigue, il était de 100 ans plus jeune qu'elle. Il fallait à cette femme un homme à ses pieds. C'était la seule excitation de sa vie. Elle exerçait avec délice le pouvoir que lui donnait la faiblesse de ses adorateurs. De quel autre aliment pouvait se nourrir son ambition? Elle se vantait à sa sœur de pouvoir faire tourner la tête à tous les hommes, et sa sœur, qui n'était guère mieux partagée qu'elle en fait de pudeur féminine et de sens moral, trouvait naturel qu'une pauvre infirme, sevrée des plaisirs ordinaires de la vie, pût au moins avoir cette distraction. M. Slope était follement amoureux, presque à son insu. Il était, entre les mains de la signora, comme un hanneton qu'un enfant pique sur un bouchon pour jouir de la vue des mouvements désordonnés qu'excite la douleur. Il savait bien ce qu'elle faisait. M. Slope ayant paré sa personne, dans la limite de ce qui sied un prêtre allant faire une visite, c'est-à-dire ayant mis une cravate propre et des gants neufs, et pris un mouchoir blanc parfumé d'un soupçon d'essence, ce n'était pas un soin inutile, se présenta à 3 heures à la porte du docteur. À 7 heures, la signora était presque toujours dans le petit salon. Mrs. Stanhope n'était pas descendue, le docteur était dans sa chambre, Bertie était sortie, et Charlotte quittait le salon quand venait un visiteur qui avait affaire spécialement à sa sœur. C'était ainsi qu'elle comprenait l'amitié fraternelle. M. Slope, selon son habitude, demanda à M. Stanhope. Selon l'habitude, le domestique lui répondit que la signora était au salon. Il y monta. Il la trouva, comme toujours, étendue sur le sofa, avec un livre français devant elle et une charmante petite papeterie en marqueterie ouverte sur la table. Elle écrivait quand il entra. « Ah, mon ami, » dit-elle en lui tendant la main gauche au-dessus de la papeterie, « ne vous attendant pas aujourd'hui, j'étais justement occupée à vous écrire. » M. Slope prenant dans sa main la main douce, blanche et fine qu'on lui tendait, la baisa, en abaissant sa grosse tête rouge. C'était un spectacle à voir. M. Slope était gros, lourd, gauche, mal à l'aise dans son rôle d'amoureux. La dame était blanche, ainsi que nous l'avons dit. Tout en elle était fin et délicat. Sa main, dans celle de M. Slope, semblait être une rose au milieu d'une botte de carottes, et pour la baiser, il fit le mouvement que ferait une vache en trouvant une fleur dans son foin. Elle avait la grâce d'une déesse languissamment étendue sur sa couche, et en même temps la possession d'elle-même, comme Vénus quand elle courtisait Adonis. « Je vous écrivais, » dit-elle, « mais maintenant mon griffonnage peut aller au panier. » Et elle prit la feuille encadrée d'or, comme pour la déchirer. « Certes non, » dit-il, mettant l'embargo de sa lourde personne sur le papier condamné à périr. « Rien de ce que vous écrivez pour moi, signora, ne doit être détourné de la destination que vous lui donniez. » Et il prit la lettre qu'il se mit en devoir de lire. « Bon Dieu, Monsieur Slope, j'espère que vous ne conservez pas tous mes barbouillages. La moitié du temps, je ne sais pas ce que j'écris. Et alors même que je le sais, ce sont papiers bons à jeter au feu. Vous n'avez pas, j'espère, la détestable habitude de conserver les lettres. En tout cas, je ne les jette pas aux vieux papiers. » S'ils doivent être détruites, elles le sont honorablement. Elles périssent sur un bûcher, comme la Didon de la fable. Percées d'une plume d'acier, sans doute, pour que l'analogie soit complète. De toutes les femmes de ma connaissance, Didon est certes la plus sotte. Pourquoi n'a-t-elle pas fait comme Cléopâtre? Pourquoi n'a-t-elle pas fait mettre sa flotte à la mer pour suivre Énée? Elle ne pouvait se résigner à perdre une terre qu'elle avait acquise par une escroquerie. Elle ne pouvait pas non plus se résigner à perdre son amant. Elle est tombée entre deux chaises. Croyez-moi, Monsieur Slope, ne menez jamais de front les affaires et l'amour. Monsieur Slope rougit jusque dans le blanc des yeux, jusqu'à la racine de ses cheveux. Il était certain que la signora n'ignorait pas ses intentions relativement à Mrs. Bold. Sa conscience lui dit qu'il était percé à jour. Il allait être puni de sa duplicité et rejeté par la belle créature qu'il avait devant les yeux. Pauvre Monsieur Slope. Il ne se doutait pas que si ses intentions matrimoniales avaient été pleinement connues de la signora, cette connaissance aurait stimulé encore la malice de ce démon femelle. Elle était satisfaite d'avoir M. Slope à ses pieds, de montrer son pouvoir en subjuguant un prêtre, de donner raison à son irréligion en prouvant combien peu de force la religion donne à ses ministres, même pour dominer leurs passions. Mais ça aurait été une satisfaction bien plus vive pour elle, de savoir qu'elle ravissait sa victime à une autre femme dont l'amour, si M. Slope eût pu le conquérir, aurait été pour lui une source de bien-être et de bonheur. La signora avait assez de pénétration pour avoir découvert que M. Slope songeait à ce mariage. Mais elle n'y avait point pensé en faisant allusion à Didon. La rougeur de son admirateur lui fit comprendre sur le champ ce qui se passait en lui, et elle eut bientôt fait d'en tirer avantage. Elle le regarda bien en face, sans irritation, sans laisser percer un sourire, avec une fixité qui déconcerta M. Slope, puis, levant le doigt et secouant doucement la tête, « Quoi que vous fassiez, mon ami, reprit-elle, ne menez pas de front les affaires et l'amour. Attachez-vous au bien de ce monde, ou que l'amour soit votre seule passion, votre seule pensée. » Mais ne les poursuivez pas à la fois, sinon vous mourrez le cœur brisé comme la pauvre Didon. Lequel est le plus fort chez vous, M. Slope, le désir de l'argent ou l'amour ? M. Slope n'était pas embarrassé dans un sermon de trouver des phrases émues, des apostrophes touchantes. Devant cette question inattendue, il était pris de court. Il sentit qu'il lui fallait dissiper dans l'esprit de son adoré un doute fâcheux sur la noblesse de ses sentiments. « L'amour, dit-il, l'amour vrai est le sentiment le plus fort que l'homme puisse éprouver. Il étouffe tout autre désir, il détourne de toute autre recherche. Mais chez moi, l'amour ne saurait absorber ainsi tout mon être que s'il l'était payé de retour. » Et il jeta à la signora un regard tendre qui voulait supplier à l'insuffisance des paroles. « Suivez mon avis, dit-elle, oubliez l'amour. Après tout, qu'est-ce que l'amour ? Un rêve de quelques semaines. C'est dans un temps si court que sont enfermées ses joies. Déçu, il fait le malheur de toute une vie. Qui a jamais connu le succès de l'amour vrai? Le succès d'un amour prouve que cet amour est faux. L'amour vrai est toujours en proie au découragement, aux inquiétudes, pour être souvent couronné par une sanglante catastrophe. Juliette a aimé, a aidé à aimer, Didon a aimé. Leur amour a-t-il fait leur bonheur? Non, il n'y a point de félicité dans l'amour, si ce n'est au dénouement d'un roman anglais, mais dans la fortune, dans les maisons, dans les terres, dans tous les biens de ce monde. Il y a quelque chose de tangible, quelque chose dont la possession peut être assurée et créer des jouissances. « Oh non !» dit M. Slope, se croyant tenu à protester contre une doctrine si peu conforme à l'esprit de la religion. « Non, les biens de ce monde ne peuvent pas donner le bonheur. »« Et qu'est-ce qui fera votre bonheur à vous ?»« À vous ?» dit-elle, en se soulevant et lui parlant avec une certaine véhémence. « De quelle source faites-vous dériver le bonheur ? Ne dites pas que vous ne le cherchez pas. Je ne vous croirai pas. Tous les êtres humains dépensent leur vie à le poursuivre. » « Et leur poursuite est toujours vaine, » dit M. Slope. « Nous cherchons le bonheur sur la terre, tandis que nous devrions nous contenter de l'espérer dans le ciel. »« Bon, vous prêchez là une doctrine à laquelle vous ne croyez pas vous-même, vous le savez bien. »« Vous êtes tous les mêmes. Si vous savez qu'il n'y a point de bonheur terrestre, pourquoi désirez-vous être évêque ou doyen ? Pourquoi vous faut-il des terres et un revenu ?»« J'ai l'ambition naturelle à un homme, » dit-il. « Sans doute, vous l'avez. » Et aussi les passions naturelles à l'homme. Voilà pourquoi je dis que vous ne croyez pas à la doctrine que vous prêchez. Saint Paul était un enthousiaste. Sa foi était si vive qu'elle annihilait son ambition et ses passions. Ainsi en est-il de l'hindou fanatique qui passe la moitié de sa vie debout sur une colonne. Quant à moi, je ne crois qu'à une foi qui se manifeste par des signes extérieurs. Je ne reconnaîtrai la sincérité d'une prédication que s'il est uni à la pratique des choses qu'elle enseigne. » M. Slope était confondu. Il ne savait que répondre. Comment pouvait-il prêcher la doctrine du divin maître, lui qui, en ce moment, résistait si peu aux suggestions du démon ? Il était un croyant convaincu, autrement il aurait traité comme un badinage les attaques de sa belle adversaire. L'audace ne lui faisait pas défaut, en général, mais il n'avait pas celle de faire de la parole divine une matière à jeu d'esprit. La signora le comprenait bien, elle éprouvait un vif intérêt à voir son hanneton tourner et s'agiter autour de son épingle. « Votre esprit se plaît à ces sophismes, dit-il, mais votre cœur et votre raison les réprouvent. « Mon cœur, dit-elle, vous savez bien peu comment je suis faite si vous croyez trouver en moi ce que vous appelez de ce nom. » Après tout, il y avait beaucoup de vrai dans tout ce que disait la signora. Si M. Slope s'exposait à être déçu, il pouvait s'en accuser lui-même. Ce que Madeleine disait d'elle-même était absolument sincère. La petite table où était le pupitre semblait être une barrière dressée contre l'ennemi. La signora était à peu près assise. M. Slope avait avancé une chaise contre le sofa. Il n'y avait qu'un angle de la table entre elle et lui. Tout en parlant, elle posa sa main sur la table. M. Slope, en lui répondant, la couvrit de la sienne. « Pas de cœur, dit-il. C'est une grave accusation que vous portez contre vous-même et que je ne puis admettre. » Elle retira sa main, non avec un mouvement vif qui dénota de l'irritation, comme si elle eût été outragée par cet attouchement, mais doucement et lentement. « Vous n'êtes pas en situation de prononcer là-dessus, dit-elle. Vous ne m'avez pas mise à l'épreuve. Non, ne me dites pas que vous voulez tenter cette épreuve. Vous savez que je n'ai pas l'intention de m'y prêter. Portez vos vœux là où ils produiront pour vous quelque chose de plus tangible, de plus matériel, que ne le pourrait une ombre d'amour, d'un amour comme le mien. Votre amour suffirait à satisfaire les aspirations d'un roi. Dites d'un archevêque, monsieur Slope. Pauvre garçon. Malgré ce qu'avait de cruel cette allusion à sa profession, il essaya de sourire, et lui reprocha doucement de plaisanter sur un sujet qui était pour lui d'une importance capitale. « Pauvre femme que nous sommes, » répondit-elle, « combien vous abusez, vous autres hommes, de nos faiblesses pour faire de nous les dupes de vos beaux discours. Vous, en particulier, messieurs du clergé, votre parole est abondante, douce comme le miel, caressante. Voyons, monsieur Slope, regardez-moi hardiment, bien en face. » M. Slope la regarda de ses yeux les plus amoureux, les plus langoureux, et étendit de nouveau la main pour saisir celle de la signora. Je vous ai dit de me regarder hardiment, Monsieur Slope. Mais bornez votre hardiesse à vos regards. Oh, Madeleine, fit-il en soupirant. C'est vrai, mon nom est Madeleine, mais personne, en dehors de ma famille, ne m'appelle ainsi. Regardez-moi en face, Monsieur Slope. Dois-je comprendre, d'après vos paroles, que vous m'aimez ? Monsieur Slope n'avait jamais fait cet aveu. S'il avait un plan, en venant, c'était de faire l'amoureux, mais non de dire qu'il l'était. Mais maintenant, il ne lui était pas possible de nier son amour. Il ne lui restait plus qu'à s'agenouiller, d'un air égaré, devant le sofa, et à jurer qu'il aimait d'un amour surhumain. La signora reçut la déclaration sans la moindre agitation, sans aucune apparence de surprise. « Maintenant, répondez à une autre question. « Quand épouserez-vous, ma chère amie Eleanor Bold ?» Le pauvre M. Slope était à la torture. Que répondre qu'il ne fût pas sa propre condamnation ? Et pourquoi m'accusez-vous d'une semblable dissimulation ? Dissimulation ? Je n'ai pas prononcé ce mot. Je ne vous accuse point. Vous n'avez pas à vous justifier devant moi. Vous jurez que vous êtes l'admirateur de ma beauté et vous êtes sur le point d'épouser une autre femme. Je prends ceci comme un compliment pour moi. C'est auprès de Mrs. Bold que vous devrez vous défendre. Ce sera difficile. À moins que vous ne la teniez dans l'ignorance absolue de vos sentiments. Vous autres, hommes d'église, vous êtes si habiles. Signora, je vous ai dit que je vous aimais, et vous, vous vous raillez de moi. Je me raille de vous, et pourquoi donc, mon Dieu ? Voyons, répondez-moi, non sans réflexion, mais en prenant le temps de bien considérer les choses. Ne devez-vous pas épouser Mrs. Bold ? Non, dit-il, et en faisant cette réponse, il éprouvait presque de la haine pour cette femme qu'il ne pouvait s'empêcher d'aimer. « Mais assurément, vous êtes de ses adorateurs. »« Non, » dit M. Slope, à qui le mot d'adorateur était particulièrement déplaisant. « J'en suis étonné, » dit la signora. « Ne l'admirez-vous pas ? Pour moi, c'est la beauté anglaise dans sa perfection. De plus, elle est riche. J'aurais pensé que c'était là la femme qui devait vous attirer. « Allons, M. Slope, laissez-moi vous donner un avis. » Épousez la charmante veuve. Elle sera une bonne mère pour vos enfants et une excellente ménagère dans la maison d'un prêtre. Oh, signora, comment pouvez-vous être aussi cruelle ? Cruelle, dit-elle, quittant le ton de persiflage qu'elle avait pris jusque-là et donnant à sa voix une gravité émue. Est-ce de la cruauté ? Comment pourrais-je en aimer une autre, mon cœur étant à vous ? Si c'était de la cruauté, Monsieur Slope, « que diriez-vous de moi si je venais vous déclarer que je partage votre passion ? Que penseriez-vous si je vous obligeais par serment à venir expier tous les jours ici, près de ce sofa, l'imprudence de vos sentiments ? Que puis-je donner à un homme en retour de son amour ? Ah, cher ami, vous ne savez donc pas ce que le sort a fait de moi ?» M. Slope n'était plus à genoux. Il s'était relevé après sa déclaration et, debout, il s'appuyait sur le dossier de sa chaise. Cette explosion de tendresse de la part de la signora lui fit perdre la tête. Il sentit, dans le moment, qu'il était capable de tout sacrifier pour être assuré de l'amour de la belle créature qu'il avait devant les yeux, tout estropiée qu'elle était, et quoique déjà mariée. « Et ne puis-je pas sympathiser avec une si cruelle affliction ? » dit-il, s'asseyant sur le sofa et poussant la table du pied. « La sympathie est si voisine de la pitié, » dit-elle, « tout infirme que je suis. » « Si vous avez pour moi de la pitié, je vous chasserai d'auprès de moi. »« Oh, Madeleine, je ne veux que vous aimer. » Et de nouveau, il lui prit la main et la dévora de baisers. Elle ne la retira pas, mais tandis qu'il la baisait, elle le considérait avec ses grands yeux noirs, comme une grosse araignée regarderait une grosse mouche dont elle viendrait d'assurer la capture. « Supposons que le signor Neroni vienne à Barchester, » dit-elle. « Voudriez-vous faire sa connaissance ?» « Le signor Neroni ? » dit-il. « Consentiriez-vous à le présenter à l'évêque, à Mrs. Proudie, à leur fille ? » dit-elle, en reprenant ce ton moqueur qui était si particulièrement odieux à M. Slope. « Pourquoi me faites-vous une semblable question ? » ?»« Il faut bien que vous sachiez qu'il y a un signor Neroni. Je crois que vous l'aviez oublié. » « Si je pensais que vous avez conservé pour ce misérable une parcelle d'un amour qu'il ne mérita jamais, » « Je mourrais plutôt que de vous laisser connaître mes sentiments. Non, si votre époux possédait encore votre cœur, je pourrais peut-être vous aimer, mais vous ne le sauriez pas. » voici que vous parlez encore de mon cœur. Mais quel singulier langage est le vôtre ? Ainsi vous croyez que si un mari ne possède pas le cœur de sa femme, il n'a pas droit à sa fidélité ? Que si une femme cesse d'aimer, elle peut cesser d'être fidèle ? Est-ce là votre doctrine à vous, ministre de l'Église d'Angleterre ? M. Slope faisait un énergique effort pour soustraire son âme aux pensées coupables qui l'assiégeaient et pour échapper au charme funeste de la sirène qui l'avait ensorcelé. Mais il n'y pouvait parvenir. Il ne pouvait rendre à son cœur la libre possession de lui-même. Il avait entrevu tout un monde de jouissance dans l'amour de cette charmante créature, et il comprenait enfin qu'il n'y trouverait que désappointement et disgrâce. Il avait rencontré ce fruit de la mer morte, délicieux et séduisant à l'œil, amer et nauséabond au goût. Il avait porté la pomme à sa bouche. Entre ses dents, elle s'était réduite en cendres. Et pourtant, il ne pouvait s'arracher au charme. Il savait. Il ne pouvait pas ne pas voir qu'elle se moquait de lui, qu'elle se faisait un jeu de son amour et prenait plaisir à attaquer sa religion dans les points vulnérables. Mais elle ne lui interdisait pas de l'adorer, et cette sorte de demi-consentement donnait au feu de son amour une ardeur que toute sa piété ne pouvait éteindre. Il commença à éprouver une irritation féroce, une soif de vengeance. Il voulait donner à son langage une sévérité, un tour sarcastique qui la blessa au vif, elle aussi. Il réfléchit, pendant les quelques instants qu'il demeura silencieux devant elle, que s'il voulait réduire l'orgueil de cette femme, il y arriverait en écrasant cet orgueil sous le sien, que s'il voulait amener cette dédaigneuse à lui demander à genoux son amour, il n'avait qu'à l'humilier par son indifférence. C'était, à ce qu'il pensait, le moyen de dompter une femme. Mais quand il en vint à vouloir employer cette belle tactique, il échoua misérablement. Que pouvait cette ingénieuse théorie, fruit de l'imagination du prêtre, contre l'expérience et l'insensibilité de la signora ? L'homme était d'avance vaincu par la femme. M. Slope aimait avec fureur, avec sincérité, mais l'amour était un jeu qu'il ignorait. La signora n'aimait pas, elle était invincible. Elle continua donc à l'insulter et lui à supporter ses insultes. « Sacrifier le monde à l'amour ! » dit-elle en réponse à une nouvelle déclaration de M. Slope. « Combien de fois on l'a dit ? Combien de fois on a menti en le disant ?»« Menti ? » s'écria-t-il. « Voulez-vous dire que je vous trompe et que mon amour n'est pas vrai ?»« Oui, sans doute, il est faux, archi-faux. Vous êtes, dites-vous, prête à sacrifier le monde à l'amour. Voyons jusqu'où vous poussez le sacrifice. Je me soucie fort peu de la foi jurée lors du mariage. Le misérable... je crois que vous avez eu l'amabilité de l'appeler ainsi, à qui j'ai juré amour et obéissance, est si vil que je ne puis penser à lui qu'avec dégoût. Dans mon cœur, j'ai divorcé avec lui. Peu m'importe ce que dira le monde. Voulez-vous me conduire à votre foyer comme votre femme ? Voulez-vous m'appeler Mrs. Slope devant l'évêque, le doyen et les chanoines ? Le malheureux restait muet, ne sachant que répondre. Eh bien, vous ne le feriez pas. « Dites-moi donc alors, quel est le sacrifice que vous feriez à mes charmes ? Si vous étiez libre de vous marier, je serais fier de vous conduire demain dans ma maison. »« Je suis libre !» s'écria-t-elle en se dressant. « Je suis libre, libre comme l'air, voyons. Voulez-vous de moi comme je suis ? Manifestez votre désir, méprisez l'opinion du monde et montrez que vous êtes un homme sincère. » M. Slope aurait dû la prendre au mot. Elle aurait reculé et il aurait eu le mérite de la proposition. Mais non. Au lieu de répondre, il resta là, passant ses doigts dans sa chevelure rousse et pensant, tandis qu'il considérait ce visage animé par la discussion, que jamais cette femme ne lui avait paru plus belle. Fit-elle en riant aux éclats. « Allons, Monsieur Slope, ne parlez plus de mépriser l'opinion du monde. Quand on a passé 21 ans, on ne devrait plus avoir de ces idées-là. Vous et moi, si nous avons encore en nous quelques restes d'amour et de passion... il nous faut les ménager, avec économie. Nous ne sommes plus dans notre première jeunesse. Le monde, votre monde surtout, n'est pas tant à dédaigner. Vous y avez de bonnes grosses cures et d'opulents évêchés à obtenir. Allons, avouez-le, en y pensant bien. Vous ne sacrifieriez pas de si bonnes choses au sourire d'une boiteuse. » Il comprit que le silence était ce qu'il y avait de plus sûr et de plus digne. « Voyons, dit-elle, ne me boudez pas. Ne soyez pas fâché de ce que je vous ai dit, quelques vérités vraies. Hélas, le monde m'en a dit à moi de plus dur. dites-moi que vous ne m'en voulez pas. Ne demeurons-nous pas amis ? » Et de nouveau, elle lui tendit la main. Il s'assit près d'elle et se courba sur sa main. « Allons, » dit-elle avec un sourire irrésistible, « scellez votre pardon sur cette main. » Elle la porta aux lèvres de M. Slope. Il la couvrit de baisers et se pencha sur la signora comme avec le désir d'étendre au-delà de la main qui lui était offerte les marques de son pardon. Mais elle manœuvra de façon à calmer son ardeur. Elle trouvait que pour un pauvre être aussi aisément séductible que le chapelain, c'était bien assez de la main. « Oh, Madeleine, reprit-il, dites-moi que vous m'aimez, m'aimez, m'aimez-vous. » « Chut, dit-elle, j'entends ma mère. » Notre tête-à-tête a été d'une longueur scandaleuse. Il vaut mieux que vous partiez, mais nous nous reverrons bientôt, n'est-ce pas ? M. Slope promit de revenir le lendemain. « Et, M. Slope, continua-t-elle, répondez, je vous prie, à ma lettre. Depuis 2 heures que vous l'avez dans votre main, vous n'avez pas eu la gracieuseté de la lire. C'est à propos de l'école du dimanche et des enfants. Si vous saviez combien je désire les voir venir ici, j'ai appris le catéchisme à leur intention. Je leur apprendrai la soumission à leur pasteur et à leur maître. » M. Slope prit congé et rentra chez lui le cœur attristé et la conscience mal à l'aise. Ainsi s'achève le tome 1er des Tours de Barchester d'Anthony Trollope.